Le frère Sidati, hafidahullah, va nous parler pour cette septième intervention de la vie en couple.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc le cours qu'on va entamer inshallah concerne certains aspects concernant le comportement dans le couple, les relations entre l'époux et l'épouse. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran aux hommes vis-à-vis des femmes, wa ashiruhunna bil ma'ruf, c'est-à-dire, et ayez de bonnes relations, comportez-vous convenablement avec elle, vivez avec elle, c'est-à-dire avec vos épouses, de la meilleure sorte. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant les femmes, les devoirs et les obligations et les droits des femmes, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et elles ont comme droit comme ce qu'elles ont comme devoir. De même qu'elles ont des droits, elles ont aussi des devoirs dans le bien. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith, khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont le mieux envers leurs épouses, leurs familles. Al-ahl, c'est un terme arabe qu'on peut traduire soit par la famille ou soit par l'épouse, parce que le terme ahl est aussi employé pour parler de l'épouse. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont le mieux, qui se comportent le mieux envers leurs épouses, et moi, je suis le mieux d'entre vous envers mon épouse. Apporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit ma akrama an-nisaa illa karim wa ma ahanahunna illa la'im. Muttafaqun alayhi. Dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'a été généreux, n'a été bon avec les femmes qu'un homme généreux, qu'un homme de bien, et ne les a rabaissés, ne les a humiliés, ne leur fait du mal qu'une personne avare, une personne mauvaise. On dit avare, c'est-à-dire elle est avare vis-à-vis du bon comportement. Elle n'est même pas capable de se montrer ou de donner de bon caractère. De même que dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit, et ça c'est une partie du hadith Hajjat al-Wada', khutbat Hajjat al-Wada', du discours du pèlerinage d'adieu, et dedans le prophète sallallahu alayhi wasallam dit concernant ce sujet, ala wastawsu bin nisa'i khayra, et il recommande à ses compagnons d'être bon envers leur femme. Dans un autre hadith, عن الأسود رحمه الله أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله أي في خدمة أهله. D'après الأسود رحمه الله qui dit j'ai questionné Aïcha رضي الله عنها que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle était son occupation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa demeure, dans sa maison? Elle répondit, c'est-à-dire Aïcha radiallahu anha, hein, il était au service de sa famille, de ses épouses. Et parmi les choses qui font que il y a la bonne entente, il y a l'amour, la miséricorde dans la famille, et en premier lieu, donc quand on dit dans la famille, entre l'homme et son épouse, car ils sont eux deux avant d'avoir des enfants, la bonne intention, pour l'homme comme pour la femme. Dans toute chose, il faut qu'il y ait la bonne intention. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu binniyat. Les œuvres ne valent que par leurs intentions. Ils savent qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré le mariage, pas par hasard, pour de bonnes raisons et pour le bien général de la communauté, de la nation. Parce que s'il n'y avait pas le mariage, il y aurait eu le mal, le désordre et la corruption sur terre. Et non pas seulement pour le plaisir et les désirs. Ils font partie des raisons pour lesquelles on se marie, mais ce ne sont pas les raisons, seulement ces raisons-là. Et ce n'est pas le but en lui-même. Ceci pour faire reculer, éloigner le mal et apporter le bien. Alors, l'époux et l'épouse vont s'efforcer d'appliquer ce qui est bien et délaisser son contraire. Ils savent pourquoi ils se sont mariés, c'est pour être dans le licite, pour être dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour prendre leur plaisir et leur désir dans ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala, non pas dans l'interdit. Donc, ils sont venus à cela avec une bonne intention, ils se doivent de se rappeler toujours la bonne intention dans toutes les œuvres, les paroles qu'ils font dans leur vécu, chez eux. Et ça, la personne qui arrivera à toujours se rappeler cela, eh ben, le bien l'emportera sur le mal, inshallah. Un autre point, ne jamais oublier, ni négliger at-tawhid. Et le monothéisme. Il y en a qui vont se demander, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les relations dans le couple? Ça a à voir beaucoup. Et toutes les notions religieuses sont basées sur At-Tawhid. At-Tawhid, c'est que toutes tes œuvres de culte, tes adorations, tu les fais sincèrement, exclusivement, pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et de même dans ta vie, lorsque tu es droit, lorsque tu parles avec véracité, tu t'éloignes de toute forme de choses qui sont interdites, que ce soit des paroles ou des actes, tu appliques le tawhid parce que tu le fais sincèrement pour qui? Pour Allah tabaraka wa ta'ala. Tu le fais en obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu te rappelles que tout ce que tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. De même, dans ton comportement avec ton épouse et de l'épouse avec son époux, ceci est une source de bien. Et ça pousse et ça aide la personne à toujours être le mieux possible. Parce qu'il sait que ce qu'il fait, il ne le fait pas pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne pas oublier ni négliger le monothéisme dans la vie dans l'éducation, qu'on s'éduque soi-même, qu'on éduque l'épouse, qu'on éduque les enfants, tout ça, ça doit être fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et basé sur le monothéisme. Et c'est la première des choses à laquelle on appelle, et c'est la première des choses à laquelle on éduque. Hein, dans l'éducation, les œuvres, tout doit être basé sur at-tawhid. Dans le mariage, et c'est ce qui aide aussi pour la bonne harmonie dans le couple et le bien dans le couple, de se rappeler qu'on applique, en étant marié, une des traditions des prophètes. Une des traditions des prophètes. Parce que les prophètes étaient des gens mariés et beaucoup parmi eux avaient des enfants. Allah dit dans le Coran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Et certainement nous avons envoyé des messagers avant toi et nous avons fait en sorte qu'ils aient, des épouses et des enfants. Et comme vous savez, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont la législation, c'est la dernière législation, celle qui vient à parachever les autres législations et à mettre un terme à la prophétie et à la révélation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était marié, il avait sa vie aussi en couple et il a eu des enfants. Et quel bon exemple qu'on a dans le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a aussi comme point la chasteté. Une des raisons pour laquelle on se marie, c'est pour la chasteté. C'est pour être à l'abri. C'est un bouclier entre le bien et le mal, entre ce qui est licite de ce qui est illicite. Et en se mariant, on se préserve de tomber dans les actes interdits, comme la fornication, l'adultère et bien d'autres choses. Et ce qui aide à cela, c'est le mariage. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ô vous les jeunes, mariez-vous, que celui qui en a la capacité, les moyens, qui se marie, ceci viendra à l'aider pour baisser son regard et préserver son sexe. Donc, et dans la chasteté, entre le fait de baisser le regard contre ce qui est interdit, préserver le sexe de ce qui est interdit, et aussi, de par la chasteté, on protège et on préserve les liens de sang et parenté. On préserve et on protège les liens de sang et de parenté. Parce que, en islam, tout enfant qui naît d'une union illégale, cet enfant n'a pas de père. Il est l'enfant de sa mère. L'enfant n'a de père en islam que lorsqu'il a été conçu dans une union légale. Un homme et une femme qui ont eu des relations avant le mariage et que de cette relation la femme est tombée enceinte, cet enfant qui naîtra n'a pas de père. Il porte le nom de sa mère et il a comme famille que la famille maternelle. Il n'a personne du côté paternel. Donc, si des actes comme ça il y en a beaucoup, ça va nuire. Et ça va être un grand mal sur terre et une grande corruption. Et les liens de sang et de parenté seront touchés. Donc la chasteté vient à préserver. Et il y a aussi la protection de l'honneur. Une personne n'aime pas être touchée dans son honneur. Il n'aime pas voir que son enfant, garçon ou fille, a eu des relations avec quelqu'un dans l'interdit. Ou que des enfants naissent dans l'interdit. Ça nuit à son honneur. Et il ne veut pas que les gens le sachent quand ça arrive. Il a tellement honte pour sa personne, pour son honneur, qu'il ne veut pas. Et l'honneur, c'est quelque chose qui est demandé en islam. Quand, dans l'islam, on parle... Quand dans l'islam, on parle du côté sacré du musulman, on parle aussi de son honneur. Kullu al-muslimi ala al-muslimi haram maluhu wa damuhu wa irduhu. Le musulman est sacré envers le musulman. Son sang, ses biens, ses richesses, et son honneur. L'islam est venu préserver Al-Ird, qui est l'honneur. Et tout bon croyant et musulman se doit d'avoir cet honneur. Il n'aime pas être touché dans son honneur, que ce soit sur sa personne, que ce soit son épouse, ou ses enfants, ou ses parents. Un bon musulman ne veut pas être touché dans ces points-là. Et aussi, pour que tout se passe bien dans un couple, il faut que l'union soit basée sur le bien. On n'a pas été forcé à être unis. Et c'est interdit en islam de forcer un homme, de forcer une femme à se marier avec un tel ou une telle. Donc, c'est un choix. Donc, on a choisi d'être ensemble, on se réunit dans le bien. Et on n'oublie pas cette raison pour laquelle on s'est unis. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la miséricorde, de la clémence dans le couple. Même, tout ce qui est demandé comme bon comportement entre les croyants, il est encore plus demandé envers l'épouse. Comme il est encore plus demandé envers les parents, envers les proches parents. Plus la personne est proche, et plus encore, toutes les délits, toutes les preuves du Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les liens entre les croyants, on doit encore plus les mettre en pratique. Parce que cette personne-là, elle nous est encore plus liée. Donc, d'être l'allié, les alliés les uns des autres, encore plus, on doit l'être. C'est inconcevable qu'on est marié, on vit sous le même toit et on est des ennemis. Ce n'est pas une bonne vie. On se doit d'être les alliés les uns des autres. Comme Allah dit dans le Coran, « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ » Et les croyants et les croyantes, les uns sont les alliés, les amis intimes des autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَى » Certainement les croyants sont frères. Ça, yani, toutes ces notions, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas croire que ça n'entre pas. Cette femme qui est avec toi, c'est avant d'être ton épouse, c'est quand même ta sœur en islam. On parle de la généralité des gens sont mariés avec des musulmanes. D'accord? Bon. Et c'est la généralité qui prime. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est vrai, c'est ton épouse, mais c'est aussi ta sœur en islam. Donc, il y a des règles, il y a des notions. Et de même pour la femme, envers l'homme. Il ne faut pas oublier ces points-là. Il faut qu'il y ait de la miséricorde, de la clémence. Déjà, il faut qu'elle soit entre nous. elle soit entre nous et nos parents, entre nous et les proches parents, entre nous et nos épouses. Man la yarham la yurham. Celui qui n'est pas clément, on ne sera pas clément envers lui. Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Les cléments, le tout miséricordieux sera miséricordieux envers eux. Il sera clément envers eux. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Soyez clément, faites preuve de miséricorde envers ceux qui sont sur terre. Celui qui est au-dessus du ciel le sera avec vous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelqu'un qui veut la clémence d'Allah tabaraka wa ta'ala, il se doit d'être clément envers les créatures et envers l'épouse. Il faut qu'il y ait de la miséricorde les uns envers les autres. Donc il faut qu'il y ait de la compatissance, de la clémence, de la douceur, le repos. Chacun trouve son repos en l'autre. Parce que dans cette vie, il y a beaucoup de difficultés, de temps à autre, des choses difficiles. Il y a des fois des atrocités, des malheurs qui se passent. Hein? Il y a l'homme, des fois, a besoin de travailler. Hein? Il y a la fatigue, de même pour l'épouse. Donc chacun est dans le besoin de trouver un repos en l'autre. Allah dit dans le Coran, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, est qu'il a créé de vous, de vous-même, des épouses vers qui vous trouvez du repos, de la tranquillité. Et il a mis entre vous de la compatissance, de la douceur et de la clémence. En cela, il y a des signes clairs pour des gens qui réfléchissent. Donc, voilà Allah subhanahu wa ta'ala, comment il nous parle de la relation dans le couple. Et qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le couple ? Al-mawadda wa rahma. Et il ne faut pas oublier que les deux époux, l'époux et son épouse, chacun vient à compléter l'autre. Nul n'est parfait. Lorsque tu vas critiquer ou tu vas te plaindre, ça ne veut pas dire que tu es parfait. La perfection appartient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. La créature est imparfaite. Elle a sa part d'erreur, de négligence. Kullu bani Adam khatta wa khayrul khatta'in At-tawwabun. Tout fils d'Adam se trompe, fait des erreurs. Et les meilleurs de ceux qui se trompent, qui font des erreurs, ce sont ceux qui se repentent, qui reviennent. Ça, il faut que ça soit ancré. Il y a des personnes, lorsqu'on viendra parler comme ça, il va dire oui, c'est clair ça. Mais dans le vécu, il ne le comprend pas, il ne le vit pas. Il a du mal à se regarder face à un miroir. À se regarder face à un miroir, ça veut dire quoi? Que lorsque une personne sincèrement vient te conseiller, sache que c'est ton miroir. Donc, lorsqu'on se rappelle cela, alhamdoulilah, on comprend les négligences, les erreurs commises dans le couple. C'est pour cela qu'il est demandé à l'homme comme à l'épouse de ne pas être derrière la personne sur toute chose, minime soit-elle. Non, sur des choses, il faut fermer les yeux. On ne peut pas. Si jamais on vient appliquer ça, on ne resterait plus ensemble. Plus personne ne pourrait supporter l'autre. Et comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, la khayra fi mu'minin la ya'laf wa la yu'laf. Il n'y a pas de bien en un croyant qui ne sait pas accepter les autres et qui ne sait pas se faire accepter, qui ne fait pas en sorte, qui ne fait pas d'effort pour accepter l'autre, et de même il ne fait pas d'effort pour être accepté par les autres. De même que dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adhahum khayrun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adhahum. Le croyant qui se mélange aux gens et qui patiente sur leur mal est meilleur que le croyant qui ne se mélange pas aux gens et qui ne patiente pas sur leur mal. Et hier, le frère Al-Akhdar vous a donné des exemples de personnes qui venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le prenaient par le devant de son vêtement. C'est les bédouins, les nomades. C'est leur caractère, ils sont un peu durs d'esprit. C'est leur car, ils ont ce genre de caractère, ils sont comme ça. Et lorsqu'ils venaient, ils n'ont pas la même, dans les, la même éducation ou la même façon d'être que les citadins, que les gens de la ville. Et donc, il arrivait que des bédouins entrent à Médine et viennent voir le prophète pour le questionner, et ils viennent de la même manière qu'ils vivent dans le désert. Donc, il attrape le prophète par là. Le prophète a mis patience. Il sait que c'est pas, la personne ne veut pas un mal. La personne elle vient pour questionner. Sahaba radhiallahu anhum considère ça comme un manque de respect au prophète sallam. Et le prophète leur dit non, patientez. Et il répond et il donne si la personne elle voulait quelque chose. Ça c'est ce qu'on appelle patienter. On ne peut pas vouloir que tout le monde soit comme je suis. Bon, la vie, je ne sais pas si elle serait belle. Si tous au même moment on pense à la même chose et on fait la même chose, subhanallah. Cette différence-là, il y a un bien dans toute cette différence-là, subhanallah. Et on trouve en l'un ce qu'on ne trouve pas en l'autre. C'est là qu'on voit que les uns complémentent les autres, complètent les autres. Donc, on n'oublie pas ça lorsqu'on est dans le couple. Et parmi aussi les grandes causes, les grandes raisons qui font qu'il y a de la quiétude, du bien dans le couple, les deux époux se doivent de préserver les secrets qu'il y a entre eux. Ça déjà c'est demandé entre les musulmans, mais là encore plus dans le couple, parce que il y a une intimité dans le couple qu'on ne trouve pas en dehors de ça. Elle est tellement énorme, cette intimité, que l'époux sait beaucoup de choses sur l'épouse, de même que l'épouse sait beaucoup de choses sur l'époux, que les autres ne savent pas. Et c'est pour cela que Aïcha radiallahu anha a donné beaucoup d'enseignements. Et les sahaba et même des tabi'in venaient la questionner parce que c'était des points intimes. Il demandait à Aïcha radiallahu anha. Parce qu'elle elle savait des choses que d'autres ne savaient pas, mais ça c'était concernant la religion, l'enseignement de la religion. Et donc, de ce fait, chacun se doit de préserver le secret de l'autre. Et il ne doit pas le divulguer. Ceci est interdit. Les secrets, et même ce qui n'est pas un secret. Parce que quelqu'un va croire qu'un secret, c'est quand je dis à quelqu'un, ne le rapporte à personne, ne le dis à personne. Pour lui, il dit ça, c'est un secret. Ou alors, je lui ai fait comprendre que c'est un secret, en le prenant à part, et en faisant en sorte qu'il n'y ait personne qui écoute. Donc la personne va comprendre qu'en fin de compte, il ne veut pas que les autres le sachent. Donc c'est un secret aussi. Le secret, ça peut être par la parole, on dit à personne, tu ne le dis à personne, mais ça peut être aussi par l'action. La personne, elle comprend des gestes qu'on veut pas, qu'il ne veut pas que la chose soit divulguée. Mais aussi ce qui est propre au couple, ce qui est propre à la famille. On n'a pas à aller divulguer. Même à un copain, ou la sœur à une copine, ils n'ont pas à raconter ça. Lorsqu'on vient à parler de quelque chose d'intime, c'est parce qu'on est dans le besoin et que la religion le reconnaît que c'est un besoin, c'est une utilité. Pour une question, un savant ou un conseil, à un savant ou à une personne de confiance, qu'on sait que c'est une personne qui va nous donner des bons conseils. Et même, des ulama disent que lorsque tu veux questionner, poser une question, alors que ça peut devenir une obligation de poser cette question-là, eh ben, fais en sorte de ne pas dire que c'est toi, ou que c'est de ta famille. Dis, par exemple au savant, une personne, elle a tel problème ou elle a telle chose. Et la personne ne sait de qui on parle. Même si les gens disent, ah, c'est sûr que c'est pour lui, c'est que des doutes et des soupçons. Et il n'a pas le droit. Mais la personne n'a pas dit que c'était lui qui était concerné par cette question. Elle parle indirectement. Pourquoi? Pour, c'est aussi, alors imaginez-vous, là où ça peut être une obligation de poser une question, hein, on te demande de faire comme ça, alors, mais que dire lorsque c'est pour seulement parler? Parce qu'on n'a rien à dire. On parle. Et il y a des gens, ils ne retiennent pas leur langue. Et il ne faut pas venir se plaindre après, lorsque vous entendez que vos récits, hein, se propagent dans les quartiers ou je ne sais pas où, ou sur internet ou autre. Ne soyez pas étonnés. Et ne dites pas, j'ai plus confiance en un tel. N'aie plus confiance en toi-même. Parce que si tu avais retenu ta langue, lui ne le saurait pas. Donc avant de dire lui, c'est toi le premier qui lui a parlé. Il ne fallait pas parler. C'était à toi de savoir à qui parler et comment parler. Donc les gens, c'est aller chercher des boucs émissaires pour être à l'abri. C'est pas moi le fautif, c'est lui le fautif. Non, c'est toi le fautif. Le premier qui a parlé, c'était toi. Donc la langue, il faut bien la faire tourner dans la bouche avant de parler. De savoir, est-ce que ce que je vais dire, ça va être pour moi ou contre moi. C'est la différence entre un homme intelligent et un homme fou. Un homme intelligent, de même pour la femme. Et surtout ce problème-là, il existe chez les hommes, mais il est encore plus répandu chez les femmes. Et ça, c'est un danger. Et pour qu'on s'entraide entre nous, il ne faut pas qu'on accepte ça. C'est-à-dire quand quelqu'un vient, on lui dit non, c'est bon. À force de faire ça, Inch'Allah, ça s'arrêtera. Parce que sinon, après, tu aides ton frère en faisant ça. Ou dans une assemblée, il raconte, lorsque vous voyez que non, là, il est rentré dans des choses qu'il n'a pas à raconter, qu'il n'a pas à dire, on le stoppe. On lui fait comment? Non, ça ne nous intéresse pas d'écouter. Mais les gens, non, ils sont curieux. Ils aiment bien tout savoir. Ils aiment bien savoir les détails. Pourquoi? Ça va te rajouter quoi? Ça va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu vas gagner quoi avec ça? T'as su quoi? T'as appris un verset, t'as appris un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? T'as rien appris du tout. Subhanallah. Donc il faut réfléchir. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Mais non, mais les gens, c'est une maladie. Ils aiment bien être au courant de tout. Ah, t'es pas au courant? Non, il croit qu'il a perdu quelque chose. Il était pas au courant. Subhanallah. T'as rien perdu, mon frère. Subhanallah. Et parfois même, ils font des éloges à celui qui est au courant de tout. Ah lui, mashallah, il est au courant de tout. Subhanallah. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est triste. Et c'est pour cela qu'une erreur est commise. Lorsque, par exemple, dans le couple, ça va très mal, et ce n'est pas le sujet, parce que si on parle du bon relationnel et le bon comportement dans le couple, mais concernant le préserver ce qui est propre à la famille. Dans un couple, lorsque ça va mal, et que les deux ont tout fait ce que la religion demande pour pouvoir se réconcilier convenablement, et ils n'ont pas pu, et ils se trouvent face à quoi? À faire appel à qui peut régler leurs problèmes. Beaucoup de gens vont voir qui? Des copains, des copines. C'est la religion qui nous a demandé ça. Moi, je voudrais savoir, les gens, quand ils appliquent, puisqu'on dit, on suit le Coran, on suit le Sunna, on suit les pieux prédécesseurs, Tayyib, dans ce point-là, on a suivi qui? On a suivi quoi? Je voudrais bien savoir. Comme Allah il dit à son prophète Sam, waqur rabbi zidni ilma, et dit, oh mon Seigneur, accrois-moi, augmente-moi dans ma connaissance, dans la connaissance, dans la science. Donc si on ne sait pas, on demande. Si les gens font, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose. Mais lorsqu'on lit le Coran, on trouve le contraire. Le Coran dit quoi? Que lorsqu'on veut chercher des arbitres ou des juges pour le conflit, qu'on ramène une personne de la famille de l'homme et une personne de la famille de la femme. Il n'a pas dit copain, copine. Il n'a pas dit aller chercher les savants. Les savants, tu les appelles pourquoi? Pour les rentrer dans tes problèmes? Non. Les savants, tu les appelles pour les questionner. Pour les questionner. Amma, pour le problème familial, le savant, il va dire ça c'est halal, ça c'est haram. Ça c'est obligatoire, ça c'est ça. Et ainsi de suite. Mais d'entrée, à part s'il est de ta famille. Et que tu le prends pour un. Et là, les deux personnes, un homme de la famille de l'homme et un homme de la famille de la femme, ils viennent à se réunir, chacun à écouter la version de son proche, pour essayer de trouver une issue. En plus, dans cela, il y a l'honneur. Pourquoi? Parce que les personnes ne sont pas concernées directement par le problème. Donc, ils ne sont pas chauds, comme celui qui vit le problème. Celui qui vit le problème, il est dans un état qui fait qu'il n'arrive pas à comprendre certaines choses, il n'arrive pas à prêter oreille comme il le faut. Pourquoi? Parce qu'il subit le problème. De même que la femme. Et c'est pour ça qu'il y a une mauvaise entente. Personne ne veut écouter l'autre. Mais les personnes tierces, quand ils vont se rencontrer le père d'un tel et le père d'une telle, ils n'ont pas de problème entre eux. Ils n'ont pas de conflit. Lorsqu'ils vont s'asseoir, ce n'est pas pour se battre. C'est pour essayer de trouver une issue à ce problème-là. Donc ils sont prédisposés à pouvoir discuter convenablement. Et chacun, au préalable, a écouté la version. Parce que chacun, comment il voit le problème, comment il a vécu le problème. Du côté de l'homme, on a pris la version, du côté de la femme, la version, et ils peuvent s'asseoir et discuter. De l'autre côté, l'un n'osera pas rabaisser, parler en mal de l'autre partie. Pourquoi? Parce que face à lui, même si c'est une personne qui n'a pas de problème, mais il est de sa famille. Et là, il vient l'histoire de l'honneur. Il ne pourra pas, il va dire, là, il y a des limites. Tu ne pourras pas dépasser. Donc, la personne sera obligée de bien parler convenablement pour qu'une issue soit trouvée à ce problème-là. Donc ça, c'est un point important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna min sharri nasi inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah al-rajulu yafdi ila mra'atih wa tafdi ilayh ثم ينشر سرها رواه مسلم. Parmi les personnes qui ont la plus mauvaise place, parmi les personnes qui ont les plus mauvaises places auprès d'Allah, le jour dernier, c'est l'homme. Il voit vers son épouse, c'est-à-dire qu'il a des rapports, des relations avec son épouse. Et son épouse, elle va vers son époux, pour avoir des rapports et des relations. Puis, il propage et il parle de son secret. Vous avez vu ce qu'a dit le prophète sallam, apporté par l'imam muslim. Dans un autre hadith, عن أسماء بنت يزيد, أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, والرجال والنساء قعود, فقال, لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم القوم أي سكتوا فقلت يعني أسماء بنت يزيد رضي الله عنها فقلت إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون قال فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون رواه أحمد. Dans ce hadith, d'après Asma bint Yazid radiallahu anha, qui dit qu'elle était auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, ils étaient en assemblée et les hommes et les femmes étaient assis, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il se peut qu'un homme raconte ce qu'il fait avec son épouse et qu'une femme raconte le moment passé ou ce qu'elle fait avec son époux. Les gens se sont tus. Il y a un moment de silence lorsqu'ils ont entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Asma bint Yazid, elle a parlé. Elle s'est un peu levée pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la voie de loin. Et elle a parlé, elle a dit oui. Et c'est aussi une formule pour dire oui, comme na'am. Elle a dit oui par Allah, au messager d'Allah. Elles le font et ils le font. Ce que tu viens de dire, Ya Rasulallah, il y a parmi les femmes qui le font et il y a parmi les hommes qui le font. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne le faites pas. Ceci est semblable à un démon qui vient à rencontrer sur un chemin un démon femelle. Une démon? Je ne sais pas. Quelqu'un sait? Une diablesse. Un diable qui vient à rencontrer une diablesse. Ça y est? Un shaytan qui vient à rencontrer une shaytana. On a, c'est grave, j'ai mieux compris. Hein? Un shaytan vient à rencontrer une shaytana sur un chemin. Et il vient avoir des rapports. Sur ce chemin, dehors, en plein air, il a des rapports avec cette shaytana. Et les gens sont là en train de regarder. Voilà l'exemple qu'a dit le prophète de celui qui vient à raconter. Ou celle qui vient à raconter. Il est semblable à ça. C'est pareil. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste aux gens, si ce n'est de faire ce qu'ils disent. Ce que vous racontez, vous n'avez plus qu'à le faire pour leur montrer. Subhanallah. Et bien sûr, on répète, parmi les causes du bonheur dans la demeure, dans la maison, où vit le couple, et que chacun soit doux, tendre, gentil avec l'autre. La méchanceté, la violence, ça n'apporte que le mal. Ça ne rapporte pas le bien. Même si tu as eu ce que tu voulais par ce biais-là, la personne ne le fait que par crainte et par peur de toi. Elle ne le fait pas de bon cœur. Et ça tombe que la personne, elle t'insulte au fond de son cœur. Et que la personne te maudit au fond de son cœur. Que la personne te fait des doigts contre toi. Et toi, tu ne le vois pas. Donc ça ne sert à rien. Mieux vaut venir avec la gentillesse, la douceur, la tendresse. Ça, c'est la majorité des gens. C'est rare la personne avec qui ça ne marche pas. Ce sont rares ces personnes-là. Mais la majorité des gens, et ça, ça fait partie de le fitra, c'est la nature de l'homme. L'homme aime qu'on vienne à lui de la bonne manière. La personne aime qu'on lui tende la main de la meilleure manière. C'est comme ça la personne. Et c'est pour cela que, à l'origine de cette da'wa, c'est comme ça qu'il faut venir aux gens, même aux mécréants. Même lors il y a des discussions, de polémiques avec les gens de livre, de la meilleure manière. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Il n'a pas dit, ne polémiquez pas, ne discutez pas avec les gens du livre. Il n'a pas dit que d'une manière bonne. Non, de la meilleure. Quelque chose d'encore plus. Subhanallah. Et donc, encore plus dans le couple, on se doit, chacun à l'autre, on se doit de se comporter avec les bons comportements qui sont demandés. An Aisha radiallahu anha, qalat. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق رواه أحمد. Dans ce hadith d'après Aïcha رضي الله عنها, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, lorsqu'Allah veut un bien pour les gens d'une maison, les habitants d'une maison, il met en eux, il leur donne quoi? Al-rifq. Al-rifq, c'est la douceur. La douceur. C'est aussi la gentillesse. La compassion. Donc, ça, c'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu du bien dans ces gens-là, lorsque ceci leur est donné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans notre hadith, il le dit à Aïcha radiallahu anha, Ya Aïcha, ma kana rifqu fi shay'in illa zanah, wa ma nuzi'a min shay'in illa shanah. Il dit, oh Aïcha, al-rifq, c'est la douceur, la tendresse, n'est pas en une chose sans qu'elle ne l'embellisse pas. Elle l'embellit. Lorsque tu veux faire da'wa et tu viens avec ce caractère-là, elle va embellir. Lorsque tu vas vouloir quelque chose, tu vas le demander avec rifq, ça va embellir ta demande. mais si elle est enlevée d'une chose, elle devient moche, elle devient mauvaise. Donc même si ce que tu demandes est bien, même si ce que tu dis est bien, mais tu n'es pas venu avec un refus. Donc ça c'est important. L'entraide aussi parmi les grandes raisons, l'entraide sous toutes ses formes. L'entraide. Hein? Partager les tâches, essayer de... Et ça, c'est à chacun dans son couple de voir, parce que chacun est... Et qu'est-ce qu'il a comme préoccupation extérieure, et ainsi de suite. Mais de qu'il y ait un minimum d'entraide hein, dans le couple. An Aïchata radiallahu anha. Qu'est-ce qu'elle dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Kana yakhitu thawbahu. ويخسف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم رواه أحمد. Hein? Lorsqu'il avait des vêtements qui étaient déchirés, c'est lui-même qui allait les coudre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'as pas entendu? Yarhamukallah. Hein? Il réparait ses sandales, ses chaussures. Hein? Et il faisait ce que les hommes font chez eux. Et il pourrait laisser cette tâche-là à une de ses épouses. Mais non, il ne voit pas le mal qu'il le fasse de lui-même. Alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce qu'elle dit aussi à Aïcha radiallahu anha sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Kana basharan min al-bashar yafli ay yunaqi thawbahu. ويحلب شاته ويخدم نفسه رواه احمد. Dans ce hadith, qu'est-ce qu'elle dit à Aïcha radiallahu anha, il était un homme parmi les hommes, alayhi salatu wassalam. Il nettoyait, il lavait ses vêtements. Il faisait traire sa chèvre. C'est comment on dit, comment on conjugue le verbe? Hein? Il trayait, barakallahu fik, il trayait sa chèvre, hein, et il était au service de lui-même. Ce qu'il avait besoin et tout, c'était lui-même qui le faisait. Et dans un autre hadith, wa su'ilat, yani Aïcha, radiallahu anha, ma kana Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, yasna'u fi baytihi, qalat, كان يكون في مهنة أهله أي خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة رواه البخاري. Et elle fut questionnée, c'est-à-dire Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison? Elle dit, il était au service de sa famille, de ses épouses. Mais lorsque l'heure de la prière venait, il allait à la prière, il sortait pour la prière. Si nous appliquons tout ce qui nous est demandé religieusement, et là on parle précisément dans le relationnel, dans le couple, nous aurons atteint certains points. Le premier, nous aurons suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En faisant cela, on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un rabaissement. Ce n'est pas une humiliation. Et qui pourrait dire de ça sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Voilà comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On veut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà son chemin alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on applique, on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On aura aidé l'épouse et la famille. Parce qu'il ne faut pas croire. C'est vrai quand, d'un point de vue général, la femme musulmane ne travaille pas. Ceci ne veut pas dire que c'est interdit. Hein. C'est un autre sujet. Avec les conditions, tout ce qui est demandé. Mais bon, d'un point de vue général, puisque l'homme travaille, la femme, elle reste dans sa maison pour s'occuper des tâches ménagères, de l'éducation des enfants et de l'entretien de la maison. Bon, cette tâche-là, est-ce qu'elle est plus lourde ou le travail à l'extérieur? Moi, personnellement, je préfère travailler à l'extérieur. C'est dur. De faire à manger, de faire le ménage, de s'occuper des enfants. Et certaines, parfois, même, elles doivent aller faire les courses. Et sur ça, je voudrais ouvrir une parenthèse. Je ne vise personne, mais le conseil, il est demandé entre nous. En France, on habite là. Il y a beaucoup de frères, ils disent, ah, moi, j'aime pas aller faire les courses. Pourquoi? Il y a trop de fitna, il y a trop de problèmes, tout ça. Ça y est. Donc, le frigo, il sera vide, il n'y aura rien à manger chez toi. Non. Parce qu'il sait que sa femme, elle ira acheter à manger. Pourquoi tu n'y vas pas? Subhanallah. Pourquoi tu la laisses, elle, prendre la poussette, prendre les enfants, et aller faire les courses, et revenir avec? Et toi, t'es où? Dans une sandwicherie? Non, mais on aime bien la facilité, on aime bien être tranquille, hein. Pas de bruit d'enfant, rien du tout. On est là, on parle, on discute et tout. T'es célibataire? Bon, ça va. Mais t'es pas célibataire, ne fais pas le célibataire. Donc, tu t'occupes de ta maison. Ce qu'il y a besoin dans ta maison, après, si t'as un temps libre, bon, tant que c'est dans le halal, il n'y a pas de problème. Mais, pas bah, tu sors et tu laisses comme ça, là, les choses comme ça, et puis après, ils ont qu'à se débrouiller, ils ont qu'à... Non. Ah non, je vais pas au marché. Subhanallah, t'as des courses à faire, va faire tes courses. Et fais la doua avant de rentrer dans le marché. Hein? Et tu achètes et tu t'en vas. Un mode de se sauver, c'est trop facile. Hein. Il est plus facile de détruire que de construire. C'est trop facile de se sauver. Donc ça, c'est un point essentiel. Il faut se le rappeler. En appliquant cela, on a dit, on suit le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a aidé l'épouse et la famille. Et on ressent quoi? De la modestie. On ressent de la modestie et le manque d'orgueil. Parce qu'il y en a, s'ils ne le font pas, c'est par orgueil. Et l'orgueil est interdit. C'est propre à qui? À Allah tabaraka wa ta'ala. Lui seul est en droit d'avoir de l'orgueil. Azza wa jal. Et nous, on est en aucun cas, on a le droit d'avoir de l'orgueil. Même pas le poids d'un atome. Celui qui a de l'orgueil, c'est comme si la personne qui veut contrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui veut contrer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le jette dans son enfer. Donc le musulman s'éloigne de l'orgueil et fait preuve de modestie. Parmi aussi les choses convenables pour les bonnes relations dans le couple, il y a le fait qu'il y ait de l'amusement, du jeu entre l'époux et l'épouse. Il y a comme si dans la maison, c'est comme si c'était des étrangers, on se connaît pas. Non, il y a une intimité, hein. On est des moments pour rigoler, pour rire, pour jouer, et ainsi de suite, hein, dans le licite. Alhamdulillah, faut pas s'en priver. Et tout ceci contribue au bonheur. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنه فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك متفق عليه. Dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est Jabr radiallahu anhu, son père est mort martyr dans une des batailles. Et il avait beaucoup de frères et sœurs en bas âge et il voulait se marier. Et il s'est marié avec une femme d'un certain âge, une veuve si je ne me trompe pas. Je peux me rectifier? Personne ne sait? Très, Inch'Allah. C'était une femme d'un certain âge, et si je ne me trompe pas, elle était veuve. Et il est venu le dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était jeune, et il lui a dit, pourquoi n'as-tu pas pris une femme vierge, une jeune femme vierge? Tu joues avec elle, elle joue avec toi. Tu ris avec elle, tu la fais rire, elle te fait rire. C'est-à-dire, c'est l'amusement qu'il y a entre les jeunes, dans un jeune couple. Bon, après, la suite, c'est que lui, il explique, il lui dit, j'ai perdu mon père, j'ai des frères et sœurs en bas âge, et je voulais une femme mûre qui puisse s'en occuper. Allez, ça aussi, hein, ça, c'était des hommes, hein. Avant, il y en a le bien personnel, il regardait le bien général. Hein, il va se marier, puis il oublie ses frères et sœurs qui ont perdu leur père, qui sont en bas âge. Non. Il dit, je dois me marier, je vais me marier, mais d'une pierre deux coups. Je me suis marié, et en même temps, c'est une femme qui pourra s'en occuper, et c'est une femme mûre, à un certain âge, qui sait c'est quoi les enfants. Pas une petite jeune qui ne connaît pas, elle sait pas. Et qu'elle aura du mal à supporter. Et ça aussi, c'est un point essentiel. Le problème, souvent, ce qui arrive, parce que les gens ne parlent pas. Dans un couple, tout n'est pas dit, en vrai. Et des fois, tout n'est pas dit. Il y a des problèmes, mais c'est parce qu'il y en a qui cachent certaines choses. Il y a beaucoup d'égoïsme. Un homme, ça y est, il s'en lasse. Ça fait des années qu'il est avec son épouse. Il a bien profité. Peut-être qu'elle aussi, elle a bien profité. Bon, maintenant, il voit qu'il y a des jeunes filles à marier. Il dit, pourquoi je m'en prie? Pourquoi, moi aussi, je pourrais, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met une croix sur sa famille. Il y en a même qui mettent des croix sur leurs enfants. Ils s'en fichent. Allez hop. Et avec cette nouvelle, il va faire des activités qu'il n'a jamais fait avec sa première épouse. L'égoïsme. La personne pense qu'à elle-même. Et parfois, lorsque c'est une nouvelle femme qui a profité sur lui, et qu'en fin de compte, il a vu qu'il a fait une erreur, parce que il a goûté à ce qu'il voulait, il revient à la première. Et la première, elle est gentille. Elle accepte. Après tout ce qu'il lui a fait, pourquoi? Parce qu'elle dit, j'ai des enfants, c'est leur père. Et il y en a, quand ils savent ça, ils en profitent. Ne vous étonnez pas. Yom al-Qiyama, il y aura des comptes à rendre. Voilà. Alhamdulillah, moi je dis Alhamdulillah qu'il y a un jugement dernier. Parce qu'il y a des gens, musulmans ou pas musulmans, surtout des gens qui ont fait du mal, des atrocités sur terre, et qui ont échappé au jugement de ce bas monde, mais ils n'échapperont pas à celui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chacun sache qu'il aura des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il ne soit pas aveuglé. L'amour rend aveugle. L'argent rend aveugle. L'argent rend aveugle. Vous avez des gens, quand ils travaillent pour un patron, hein, ils sont sévères. Je veux toutes mes prières, je veux le Jumu'ah, même en plus, je veux même aller au Jammer pour les 5 prières. Ils sont, durs. Ils comprennent pas que le patron, il soit réticent et tout ça. Surtout si c'est un non-musulman. Lui, il voit que l'argent, il voit l'entrée de l'argent. Il voit que tout ce temps-là, c'est une perte dans le travail. Le jour où il est patron de lui-même, il fait ses 5 prières la nuit. Il ouvre une sandwicherie, les prières, elles passent. Pas de jamais, rien du tout. Ah, on est occupé, les travaux, les ça, et ça, et ça. Subhanallah. Mashallah. Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve, on parle, on sait pas. Des fois, quelqu'un dit, j'aurais voulu être riche. Tu aurais été riche, on sait pas comment tu aurais été. Subhanallah. On peut pas savoir, mais, c'est, alhamdulillah, on a les yeux ouverts, on peut en parler. Alhamdulillah, c'est très grave. Et ça, il y a une forme d'égoïsme. Une forme d'égoïsme. Il se bat pour avoir une augmentation, mais lui, quand il sera patron, il n'y aura pas d'augmentation pour ses employés. Hein. C'est au lance-pierre qui va les payer. Hein. Parfois même, il va lui dire, tu patientes plusieurs mois parce que... Non, toi patiente. Toi, c'est pour ton salaire à toi, qui est patron, ou pour tes bénéfices, toi patiente. Mais ton ouvrier, tu... Non. T'as pas à lui dire patiente. C'est une autre personne qui vient lui dire patiente. Hein. Je sais entendre dire que t'as un problème avec ton patron, mais patiente. Mais toi, t'as pas à lui dire patiente, c'est trop facile. Subhanallah, toi, c'est dans ton intérêt de lui dire patiente. Subhanallah. Annie, des fois, il faut savoir qui doit dire, il doit donner le conseil à l'autre. Subhanallah. Quelqu'un vient gifler une personne. L'autre, elle est énervée. Non, patiente, la patience, c'est bien. Subhanallah. Non, mais on en arrive un peu là, subhanallah, les gens. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لهو ولعب إلا أربع وذكر منها ملاعبة الرجل امرأته. Dans ce hadith rapporté par Al-Nasa'i dans son ouvrage Ishratul Nisa. Là, je précise l'ouvrage. Parce que sinon, ce serait une tromperie. Je n'ai pas le droit de dire Rawahu Nasa'i, je me tais. Parce que si je dis Rawahu Nasa'i, tout le monde va comprendre que c'est dans Sunan. D'accord? Mais comme il a apporté, il a un autre ouvrage qui s'appelle Ishratul Nisa, c'est le thème, hein, c'est le comportement relationnel avec les épouses, avec les femmes. Et c'est un ouvrage que l'imam Nasa'i, c'est un hadith qu'il a, et il l'a apporté dans cet ouvrage-là. Par exemple, quand on dit Rawahu al-Bukhari, tout le monde comprend quoi? Dans son Sahih. Le Bukhari n'a pas que Sahih, il a d'autres ouvrages. Par exemple, si le Bukhari, en vérité, ce hadith, il l'a apporté dans Al-Adab al-Mufrad, je suis en obligation de le préciser. Pas que la personne rentre chez elle et elle dit, mais il n'y a pas le hadith, je l'ai cherché. Non, il n'est pas dans ce livre-là, il est dans Al-Adab al-Mufrad. Mais lorsqu'on dit Rawahu al-Bukhari, c'est dans son Sahih, parce que c'est l'ouvrage qui est le plus connu. Et donc c'est pour cela qu'on n'est pas dans l'obligation de citer ce livre. Mais si c'est dans un autre ouvrage, on cite l'ouvrage. Donc, toute chose, le prophète alayhi salam dit, toute chose où il n'y a pas le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah, hein, est un loisir ou un jeu, mais là c'est péjoratif, c'est négatif. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose de, c'est une perte de temps. Hein, sauf l'homme lorsqu'il joue avec son épouse et il a cité d'autres choses, mais la première chose qu'il a cité, mula'abatu ar-rajul imra'atah, et on a vu tout à l'heure aussi, on en a parlé, que la perfection n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Nul n'est parfait sur terre, on a tous notre part d'erreur, de négligence, on n'est pas parfait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce sujet, la yafrik ay la yubghid mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, rawahu Muslim. Hein? Qu'un croyant ne vienne pas à détester une croyante. Là on parle de l'homme avec son épouse. S'il vient à détester en elle un comportement, il en aimera un autre. Tu n'aimes pas en elle ce comportement-là, mais tu aimeras d'autres comportements qu'elle a convenables. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ رواه أحمد والترمذي. Hein? Les croyants les plus parfaits, les meilleurs, hein? Les plus parfaits dans la foi sont ceux qui sont dotés des meilleurs caractères, ceux qui ont les meilleurs comportements, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui sont le mieux envers leurs épouses. On a un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors d'un voyage, il avait pris avec lui Aïcha radhiyallahu anha. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il partait en voyage, il prenait une épouse avec lui. Hein, et il faisait le tirage entre ses épouses, laquelle qui part avec lui. Et donc parfois c'était Aïcha radhiyallahu anha. Une fois Aïcha radhiyallahu anha est partie avec lui, et il a demandé aux sahabes de l'anhum d'avancer devant, ils veulent rester à l'arrière, et ils sont partis, les sahabes de l'anhum, il ne restait que lui et Aïcha de l'anhum, et il lui a dit, je veux faire une course avec toi, une course à pied. Et Aïcha est encore jeune, elle n'avait pas encore pris du poids, et ils ont fait la course et elle a gagné. Une autre fois, à un autre voyage, Aïcha l'avait oublié ce jour-là, mais le prophète voulait prendre sa revanche. De même, dans un voyage, il a demandé au sahaba d'avancer, et il lui a dit, on va faire la course. Elle lui a dit, mais au messager d'Allah, mais là j'ai pris du poids. Il lui a dit, non, il faut faire la course. Et ils ont fait la course, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gagné. Et il lui a dit, ça, c'est la revanche de l'autre jour. Il lui a dit, hadihi bitik. Naam. De même que parfois, lorsqu'ils étaient en train de manger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son épouse, hein, lorsque son épouse, elle buvait dans le verre, ou le récipient qu'ils avaient, et ben le prophète sallam, lorsqu'il voulait boire, il le prenait et il buvait de là où elle a bu. Et elle a dit, Aïcha, et j'étais en état de monstru. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit, il est où le problème? Le problème, c'est que les juifs à l'époque, à Médine, disaient qu'une femme qui a ses menstrues, on ne doit pas l'approcher, ni s'asseoir avec elle, jusqu'à qu'elle ait plus ses menstrues, qu'elle soit purifiée de ses menstrues. Hein? Et l'islam est venu, yani, rejeter ces paroles-là. Donc, parmi les recommandations qu'on pourrait faire à ce sujet, hein, c'est que chacun essaie de faire des efforts pour faire plaisir à l'autre. Toujours, bien sûr, dans le licite. Et aussi de se recommander l'obéissance d'Allah et de son messager. Parce que si on se recommande l'obéissance d'Allah et de son messager, alhamdoulilah, dans l'obéissance d'Allah et dans l'obéissance du messager, il y a de bien se comporter les uns envers les autres. Hein, il y a que je dois m'acquitter de mes devoirs. De même que j'ai des droits, j'ai des devoirs. De même qu'elle a des droits, elle a des devoirs. Hein? Donc, le fait qu'on se recommande l'obéissance d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam, hein, en faisant cela, on fait l'amr ma'ruf al-nahi anil munkar, on se recommande le convenable, c'est-à-dire le blâmable, on fait an-nasiha, le conseil qui est demandé, et en plus de cela, si on vient accepter cette recommandation et ce conseil, alhamdulillah, ben on fera en sorte d'appliquer pour être obéissant à Allah ainsi qu'à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en cela, il y a le bien dans le foyer. Et chacun essaie selon sa capacité. Fattakullaha mastata'tum, craignez Allah, faites preuve de piété envers Allah comme vous le pouvez, selon votre capacité. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait la capacité de chacun. Donc chacun fait les efforts, hein, pour s'acquitter des devoirs envers l'autre. Et aussi la justice. Hein, que l'homme soit juste et que la femme soit juste. Ça, c'est bien ça. Yani, la droiture. Quand on juge avec droiture, avec véracité. Et même dans les conflits. Même on a été énervé, quand l'énervement est parti, on revient un peu à notre esprit. On reconnaît les choses. On est juste dans le jugement. Et ça, c'est le caractère du musulman. Et l'islam le demande même avec l'ennemi. Même avec l'ennemi. Ton pire ennemi, t'as pas le droit de dire que c'est lui qui a fait telle chose alors que c'est pas lui qui l'a fait. T'as pas le droit de l'accuser alors que c'est pas lui qui l'a fait. T'as pas le droit de dire, eh ben, je vais en profiter à ce moment-là parce que il y a beaucoup de chances qu'on croit que c'est lui qui l'a fait. Non, tu n'as pas le droit. Même si c'est ton pire ennemi, tu n'as pas le droit. Parce que, même si les gens le font, toi, tu n'as pas à le faire. Parce que toi, tu es géré par la religion. Tu ne suis pas tes passions et tes envies. Non, tu suis la religion, le livre d'Allah, la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le juif à Médine n'avait pas peur que lorsqu'il avait un conflit avec un musulman, d'aller voir le prophète pour le prendre comme juge. Lorsque le juif savait qu'il avait raison ou que la chose lui appartenait, il n'avait pas peur. C'est lui-même qui s'empressait d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était juste et droit dans son jugement. Imaginez-vous ça, subhanallah. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Et que la haine envers un peuple, envers des gens, ne vous mène pas à être injuste. Soyez juste, car ceci est bien plus proche de la piété. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-muqsitouna yawm al-qiyamah ala manabir min nur ala yamin ar-Rahman wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wullu, rawahu Muslim. Al-muqsitoun, ce sont les gens justes, droits. Ils seront le jour dernier sur des chairs de lumière à la droite du tout miséricordieux. Et les deux mains du tout miséricordieux est une droite. C'est qui? Ce sont ceux qui sont justes dans leur jugement envers leurs épouses, leurs familles et envers leurs responsabilités. Et ceux sur qui ils ont une responsabilité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Abu Darda radiallahu anhu jeûnait le jour, priait la nuit et ne donnait pas de son temps à son épouse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Parmi les conseils qu'il lui a dit, il lui a dit: inna li ahlika alayka haqqan, hein? et ta femme a un droit sur toi. Ton épouse a un droit sur toi. Alors qu'il fait quoi? Il a rien fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est en adoration, en prière, en jeûne. Eh ben non. Tu te dois de t'acquitter du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après, tu dois aussi donner à chacun son droit. Et à ton épouse, tu dois lui donner son droit. Rawahu al-Bukhari. Et de même, qu'il ne faut jamais oublier les biens, les bienfaits, les uns envers les autres. Surtout avec l'âge, avec le temps, des fois on a tendance à oublier. Déjà ça, c'est demandé entre nous, musulmans et musulmanes, mais dans le couple, il ne faut pas oublier. Une femme, tu t'es mariée avec elle, elle était jeune, tu étais content, c'est normal, vous prenez de l'âge. La femme, elle ne restera pas, elle n'aura pas toujours ses 20 ans. Toi aussi, tu n'auras pas toujours tes 20 ans. Si toi tu vois qu'elle a vieilli, sache que toi aussi t'as vieilli. Hein? Et donc, et on oublie tout ça. Non, c'est pas bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Et n'oubliez pas les bienfaits envers vous, car certes Allah voit ce que vous faites. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.